Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, chaque jeudi à 13h15, 19h15, en compagnie de Yann Kerjoin à la technique. On peut retrouver l'émission sur les podcasts de Radio FM+, l'écouter en direct sur la fréquence 91 à Montpellier ou sur www.radiofmplus.org sur internet. Je reçois aujourd'hui Elisabeth Vitielli qui est une poète engagée. Nous irons tout au long de cette demi-heure de Jardin d'Isis à la rencontre de son univers poétique. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Marie-Agnès Salezada. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre Jardin d'Isis.
Le bonheur est pour nous et pour les auditeurs qui vont découvrir votre écriture. Alors vous dites dans votre biographie « Je vis et travaille à Montpellier, j'anime des ateliers d'écriture littéraire et poétique, le plus souvent en lien avec des visites d'expositions et de festivals. Hispaniste et traductrice, je m'intéresse actuellement à des textes en langue espagnole peu connus de la première moitié du siècle dernier. Par ailleurs, concernée par la question du regard sur l'œuvre d'art, je poursuis une réflexion sur sa relation avec l'écriture. Écrire à propos du courage, de l'exil ou de la mémoire, c'est tenter de faire trace au plus juste pour donner corps et voix aux oubliés. Déjà, nous allons faire un petit peu connaissance avec notre invitée. Dites-nous, Elisabeth Vitielli, depuis quand vous connaissez cette passion pour la poésie et aussi le désir d'en écrire?
Eh bien, c'est une longue histoire. La poésie, la musique des mots, la magie de ce qu'ils évoquent, la façon dont ils résonnent dans le corps, ça m'est venu vraiment très tôt dans l'enfance. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était un conteur merveilleux. Un homme passionné par la littérature, qui adorait raconter des histoires qu'il inventait au fil de la parole, mais aussi raconter ses lectures. Interprété bien entendu à hauteur d'enfant. Et je pense que cela a développé mon goût pour la langue, le castillan, puisqu'il était espagnol, et le français, qu'il maîtrisait parfaitement. Et puis nous vivions en France. J'ai donc été bercée au sens littéral par la musique de ces deux langues, qui sont devenues plus tard le fond sonore de mes rêveries poétiques. La poésie était donc déjà dans mon oreille lorsque je l'ai approchée de façon plus formelle. C'était en première, la préparation des preuves de français du bac. Là aussi, une chance extraordinaire, un professeur passionné qui nous a fait découvrir la poésie en privilégiant la lecture à haute voix. Donc la découverte et l'apprivoisement des textes d'Apollinaire. Je me souviens, c'était le recueil Alcool, qui depuis n'a pas quitté ma table de chevet. Mais ça a été une découverte déterminante, et c'est ce qui m'accompagne encore. L'écrit est donc venu de l'oralité. J'ai longtemps écrit sans faire trace, des pans entiers d'histoire, des poèmes, des chansons que je tricotais mentalement, et puis que je laissais s'échapper. Et puis le désir d'écrire, et en particulier d'écrire dans un registre poétique, il m'est venu plus tard en interrogeant son désir jumeau qui était celui de faire écrire. Ce que je tente en atelier d'écriture. Donc j'anime des ateliers d'écriture littéraire, vous l'avez dit, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et c'est bien cela, en fait, qui m'a amenée à faire trace et à creuser mon propre chemin d'écriture.
Alors, nous allons vous demander quelques mots au niveau de la forme, si vous avez un mode d'écriture qui vous est favori. Je dois dire que vous utilisez un vocabulaire très élaboré, ce qui est peut-être à mettre en lien avec vos activités de traductrice et d'amoureuse de la langue, je suppose. Vous parsemez vos poèmes de mots qui ne sont pas courants, loin de là. Le Meltem, le Nessim, les Sycophantes, etc. Ce qui ne nuit pas au parcours de lecture du poème, mais au contraire, va susciter la curiosité du lecteur.
Alors, j'écris pour l'essentiel des poèmes en prose, ou bien de courtes vignettes poétiques pour lesquelles la disposition des mots sur la page, le choix de la typographie ont vraiment une grande importance. Le poème, j'aime quand il parle à l'œil et pas seulement quand il chuchote à l'oreille. D'une manière générale, je privilégie les formes courtes, que ce soit en poésie comme en écriture de fiction. J'écris des nouvelles aussi. Et si je privilégie ces formes courtes, c'est peut-être pour aller à l'essentiel, pour ne pas me perdre en chemin. Je pense que c'est un peu de ça. Et puis j'aime déguster, j'aime savourer les mots, j'aime mâchonner leur chair, leur pulpe. Donc dans l'écriture, il arrive un moment où c'est un mot en particulier qui s'impose. C'est celui-ci, c'est pas un autre mot. Et sa musique a tout autant d'importance que sa signification. Et vous avez raison, je pense que la pratique de la traduction n'est certainement pas étrangère à tout cela. Hein. La recherche du mot juste, et par mot juste j'entends le mot juste ici et maintenant, le mot qui va être au plus près de ce que je désire exprimer, de ce que je cherche à faire ressentir, à ressentir moi-même déjà, et puis à faire ressentir au lecteur. Vous citez le Meltem, le Nessim, ce sont des noms de vent qui, dans le poème « Tant que tu tiens debout », portent une signification vraiment profonde. Dans ce texte, j'ai tenté de donner une voix aux femmes migrantes à travers des témoignages, des extraits de journaux, des extraits de documentaires que j'ai tressés avec ma propre parole poétique. Le choix de ces mots, eh bien, le Meltem, c'est un mot turc, c'est le nom d'un vent, donc, Meltemi en grec. C'est un vent fort, très fort, qui soulève une houle dangereuse et qui souffle en été en Méditerranée méridionale, orientale, pardon. Et il me semble que ici, nommer le vent suffisait. On sait où l'on est. Et le Nessim, c'est un mot arabe qui désigne la brise qui vient de la mer, mais aussi le souffle qui donne la voix. Et là encore, en un seul mot, il me semble que tout est dit.
Alors j'ai noté une citation. Humanité et fermeté, nous plaidons pour une réponse unifiée de l'Europe.
Alors effectivement, c'est une citation, ce n'est pas moi qui dis, c'est toujours dans ce même texte, « Tant que tu tiens debout ». Je disais que j'avais travaillé différents matériaux, donc effectivement, dans ces matériaux, il y a aussi des citations d'hommes et de femmes politiques, de journalistes, que j'ai utilisées telles quelles, sans changer une virgule. Et cette phrase, si je me souviens bien, c'est Angela Merkel qui l'a prononcée au cours d'une allocution quelconque en 2018 ou 2019.
Donc, est-ce que vous avez des thèmes de prédilection et pourquoi prenez-vous le crayon pour écrire ?
Je ne sais pas si je peux dire que j'ai à proprement parler des thèmes de prédilection. En fait, j'ai plutôt l'impression que ce sont les thèmes qui me choisissent. Il arrive un moment où un sujet va s'imposer de lui-même parce qu'il me traverse et je serai incapable de vous dire comment il m'a attrapée. Alors j'écris. Et cela peut être à propos d'un fait que l'on peut qualifier de politique, d'historique ou de sociétal. Le plus souvent, l'écriture me vient d'un questionnement, en fait. Pourtant que tu tiens debout, toujours ce texte-là, la question c'était comment dire ? Comment raconter la tragédie des migrantes ? Comment dire sans que les mots deviennent creux ? Et je crois vraiment intimement que la poésie peut tenter cela. Prêter une voix à celles et ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus.
Vous publiez vos poésies dans cette maison d'édition, Édition Musimo. Pouvez-vous nous en parler, Elisabeth Vitielli ?
Oui, les textes poétiques « Les oiseaux morts », nous y reviendrons plus tard dans l'émission, et « Tant que tu tiens debout », ont été publiés par Musimo. La toute première version de « Tant que tu tiens debout », une version préliminaire, avait été publiée par Tadigrad Édition, une maison d'édition à La Boissière. Musimo, c'est une petite maison d'édition indépendante. Alors je dis petite, elle est petite par la taille, mais elle est grande par ses ambitions et par ses exigences. Musimo, elle est portée par Monique Lucchini. C'est une maison d'édition qui a été créée en 2009, d'abord avec un catalogue plutôt généraliste, mais qui s'est assez vite spécialisée dans la publication de textes poétiques. Et ce qui est à noter, c'est que la démarche singulière qui anime l'éditrice, qui est de faire de chaque livre le lieu papier, j'ai envie de dire, le lieu papier de la rencontre singulière d'un ou une poète et d'un artiste. Qu'il ou elle soit peintre, graphiste, photographe. Ainsi, pour les oiseaux morts, ce sont des photographies de Marie-Pierre Fora qui accompagnent le texte. Et pour Tant que tu tiens debout, ce sont les œuvres peintes d'Anne Baradel qui ponctuent le poème.
Et très belles illustrations, je dois dire.
Oui, c'est vrai.
Pour les deux publications.
Oui, elles sont magnifiques. Et c'est un véritable dialogue qui s'instaure entre l'œuvre graphique, qu'elle soit photographiée ou peinte, et le poème. Et puis par ailleurs, une de mes nouvelles, Jolie Blonde, a été publiée en tout début d'année dans le dernier numéro de Brève, qui est une anthologie permanente de la nouvelle. Depuis les années 80, je dirais, les éditions Atelier du Guet effectuent un travail considérable de promotion de cette forme littéraire au travers de cette revue semestrielle. Et je tiens d'ailleurs ici à saluer la mémoire de Daniel Delors, qui nous a quittés en février dernier.
Vous êtes adhérente depuis de nombreuses années à l'association Voix de l'Extrême Poésie et Culture. Vous avez publié dans l'anthologie de poésie internationale en 2020. En quoi cette association entre-t-elle en résonance avec votre propre parcours d'écriture ?
Oui, effectivement. Je suis adhérente à Voix de l'Extrême. En fait, dans les missions que cette association s'est fixée, je reconnais certaines des motivations qui m'animent. Donner à voir, donner à entendre, faire de la parole poétique une œuvre de mémoire. Les Voix de l'Extrême portent l'engagement de la transmission mémorielle de la guerre d'Espagne, mais sans pour autant négliger les tragédies d'aujourd'hui, ce qui me paraît vraiment essentiel. Et c'est en cela qu'il y a résonance, comme vous le dites. La poésie se fait ainsi trace, voix, mémoire.
Et nous allons écouter un extrait de « Les oiseaux morts », qui est un poème écrit autour de la Retirada, je crois, lors que vous avez visité le camp de Gurs.
Oui, c'est une visite du camp de Gurs dans les Pyrénées orientales, qui a été déterminante. Voir ce qu'il pouvait rester de la reconstitution des baraquements, visiter le cimetière, il y avait des petits galets et des drapeaux de la République espagnole, donc violet et jaune sur les tombes. Voilà, tout cela était très émouvant, résonné aussi avec une histoire familiale, bien sûr. Et la Retirada, juste pour préciser, c'est en 1939, fin de la guerre civile espagnole, exil républicain. La Retirada, c'est le nom donné à l'exode des réfugiés à la frontière franco-espagnole. Donc à partir de 1939, ce sont plus de 450 000 réfugiés antifascistes qui franchissent les Pyrénées. Je vous lis le tout début du poème. Je les ai vus courir. Je les ai vus courir le long des rails. Je les ai vus, entre les peupliers, marcher vers les baraquements, un ballot à l'épaule, barbe ou menton. Ils n'ont pas d'âge, ils marchent, front bas, portés, tirés. La main agrippée à l'épaule d'un camarade, ils avancent. Je les ai vus tomber. Avant, on les a poussés dans des camions, débris d'une armée en déroute, ces rouges en guenilles. Je les ai vus pleurer sous les tentes sur la plage, une plage d'hiver, n'offrant qu'un sable gelé au sommeil qui les frappe. Et avant, à la frontière, les képis en rang serré ont fait jeter les armes sur le talus. J'ai vu les fusils en vrac, dans le long ruban des soldats, ces murmures, ils te prennent tout. Alors,
l'écriture d'Elisabeth Vitielli, vous l'aurez compris, est tournée vers l'actualité. Elle part résolument à la rencontre des problèmes de l'exil, des problématiques de l'exil et du déracinement avec une approche qui lui est propre. Et ce regard vers l'autre en état de souffrance. Le poème dont vous avez parlé tout à l'heure, « Tant que tu tiens debout », est d'une présentation très originale. Il se présente comme un journal de bord qui vient à la rencontre de femmes migrantes de différentes origines avec des images poignantes qui surgissent du poème. Leur histoire se déroule comme une pelote d'algues au fil de l'eau. Et vous disiez que vous êtes allé à la recherche de nombreuses sources pour nous offrir ce poème.
Oui, effectivement, nous en parlions déjà tout à l'heure. J'ai voulu tresser différents matériaux, des témoignages de femmes migrantes, des paroles officielles et ma propre voix poétique. Au-delà du travail d'écriture, cela m'a demandé effectivement des recherches. J'ai consulté de nombreux sites d'associations qui viennent en aide aux migrants, des documents émanant d'organismes officiels comme le Haut Commissariat aux réfugiés. J'ai lu des articles de fond, visionné des documentaires, des reportages. Et toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyée sont citées à la fin de l'ouvrage.
On vous écoute.
Tu bouges, on te tue. Tu pleures, on te tue. Tu cries, on te tue. L'obscurité avale tout, efface les contours du monde. Un canot dérive, moteurs arrêtés. Les vagues clapotent contre les bords, murmurent, chuchotements. Et si la mer est un goudron épais et glacé, un trou noir, rien ne peut s'en échapper. La nuit coule, efface les contours du monde.
Se tu sospiri, sol per me, gentil pastor. O dolor dei tuoi martiri, o diletta del tuo amor, ma se pensi che solita io ti debba riamar. Pastorello, sei soggetto, facilmente a t'ingannar. Pastorello, sei soggetto, facilmente a t'ingannar.
Alors Elisabeth Vitielli, vous animez des ateliers d'écriture qui s'articulent autour d'expositions et vous citez l'univers de peintres. Pouvez-vous nous parler de cette relation et du regard sur l'œuvre d'art ?
Oui, j'anime des ateliers d'écriture essentiellement en médiathèque, les médiathèques de la métropole. Également, j'ai animé des ateliers d'écriture pour enfants au musée Fabre. Et également, occasionnellement, autour d'expositions qui se tiennent à Montpellier ou ailleurs. La problématique du regard sur l'œuvre d'art est en parallèle, la problématique du regard comme déclencheur possible de l'écriture sont mes axes principaux de travail et de réflexion en atelier. Je cite souvent Alexandre Olan parce qu'au-delà de son travail de peintre, hein, qui me touche terriblement, je suis fascinée par la sensibilité et l'acuité avec lesquelles il a analysé sa propre pratique au fil du temps. Je fais référence à ses notes de travail qui s'intitule « Je suis ce que je vois », publié chez RS, donc « Je suis ce que je vois », tout est dit. Donc, dans les ateliers d'écriture que j'anime, la proposition qui est faite aux participantes qui sont venues là écrire contient toujours un élément visuel qui va servir à la fois à faire diversion et à déclencher l'écriture. Je regarde donc, je ne suis pas encore en train d'écrire. Et peut-être même qu'en regardant et en me concentrant sur la façon dont je regarde, en suivant les consignes, eh bien j'oublie que je vais écrire. Et c'est à ce moment-là, il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, c'est à ce moment-là que l'écriture devient possible.
Alors vous dites, dans la verticalité fluide des silhouettes, le geste est déployé et doit tout à l'ondulation de l'instant. Il se tient en déséquilibre, le regard en suspens, à la frange de l'instant où il se pose. Et nous allons écouter un extrait de « Regarder ».
Oui, ce que vous venez de lire, effectivement, est tiré d'un texte qui s'intitule « Regarder », qui fait partie d'un catalogue d'exposition, donc un collectif de textes autour de l'exposition « En regard ». D'Anne Baradel, qui a été donnée par la Galerie Borromée en 2019 à Montpellier et à Cimérolles en Dordogne. Alors, la Galerie Borromée, c'est une galerie éphémère qui, deux ou trois fois par an, peut proposer une exposition donc, qui se décline sur ces deux lieux. Je vous lis le tout début de Regarder. Ici, cloué, par le ressac du regard déposé sur le tremblement continu des corps. Là, la vie fait apparition entre courbes et bras levés. Ce sont des éclats, des échos, des traces qui s'esquivent. Le regard choisit la cible de son désir, geste tragique qui ne se doit qu'à l'instant, qui pointe ce qui est là, mais ne se voit pas, désigne la faille de l'indicible. Dans ses yeux qui se coulent un passage, il est question de ligne, de terre, de souffle et de silence. Un œil te fixe, toi qui fouilles dans les plissés et les cheveux dénoués par le vent sombre, un œil t'épingle, toi qui fourrages dans ce qui s'offre et ne se donne pas.
Je vais dire chuchotement, mais auparavant, pouvez-vous nous révéler ce qui a inspiré, ce qui est venu comme inspiration autour de ce poème ?
Chuchotement, c'est encore un texte de catalogue, toujours une exposition de la Galerie Borromée. C'était l'exposition en 2021 de Karita Savolainen, exposée des aquarelles de paysages, des paysages où elle a tenté de montrer avec énormément de discrétion et aussi de générosité comment l'homme le blesse, ce paysage.
Que murmurent ces paysages que seul le regard écoute ? Un poème chanté du fond de la gorge, du gouffre des temps, un poème sans parole, incantation insaisissable, écho fané de lacs et forêts d'un pays sans nom, dont la géographie dans ses voies se dessine. Que nous chuchotent ces paysages ? Les brumes glissent entre les troncs, s'accrochent aux branches et s'y déchirent. Silence des eaux, à peine troublé par le soupir d'une pluie salée. Dans les forêts incendiées, restes de cendres poudreuses, les os des arbres renversés et le ciel harponné, mis en lambeaux sous leurs griffures. Elisabeth Vitielli nous emmène avec sa poésie à la découverte d'un poème qui se décline en écriture bilingue. Il s'agit de
Létania. Létania, c'est encore un texte de catalogue. C'est un texte écrit dans le cadre de l'exposition de Patricia Stiman, Suspens, à la Galerie Borromée encore. J'ai été happée par une toile qui m'a directement amenée en Espagne. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est qu'après avoir commencé à écrire que j'ai trouvé le titre de la toile qui était en fait Chemin d'Espagne. Donc voilà, cette toile m'a amenée sur les chemins de Castille et la litanie dont il est question, c'est une série de noms de lieux autour de Ávila, dans un rayon de 100 km autour de cette ville, et des noms de lieux qui, en écho aussi, amènent à la poésie de Thérèse de Ávila ou celle de Saint-Jean de la Croix. Létania. Dans une myriade de poussières, copeaux de graphite en suspension, un caillou et son ombre portée. Point par point, ligne après ligne, un paysage en noir et blanc s'évapore en un frémissement. Le long ruban blanc qui se déroule s'empare du regard. Passage, chemin de perfection, tracé, là. La Colilla, Zapardiel de la Cañada, Verocalejo de Aragona, Navahondilla, Narayillos de San Leonardo, Ojos Albos, Piedras, Luz y Sombra.
Au moment du Printemps des Poètes de cette année 2023, a eu lieu une lecture musicale. Donc vous disiez vos poèmes.
Oui, en fait, j'étais invitée par le Point de Capiton à Velleron, dans le Vaucluse. Et j'ai lu « Tant que tu tiens debout » en dialogue avec Marie-Pierre Fora, qui jouait de l'accordéon et du tambourin, et c'était une expérience extraordinaire, un dialogue entre les mots et la musique, un moment privilégié.
Avez-vous des futurs projets à partager pour les auditeurs?
Oui.
Ah oui, très bien.
Je travaille actuellement sur différents chantiers littéraires, deux nouvelles en gestation, un recueil de vignettes poétiques associées à des photographies, mais cette fois-ci ce sont mes propres photographies, donc c'est une expérience nouvelle. Et puis deux projets de traduction. Alors le détail de ma bibliographie figure sur ma page auteur sur le site des éditions Musimo, c'est par cette page-là aussi qu'on peut entrer en contact avec moi si besoin. Et pour ce qui est de mon actualité, je ferai une lecture poétique le 4 juin prochain au Jardin méditerranéen de Balaruc-les-Bains en compagnie d'autres poètes. Je serai présente à la Comédie du Livre le samedi 13 mai, le matin et le dimanche 14 l'après-midi à la table de l'atelier du Guet pour parler de ma nouvelle « Jolie blonde ». Et mi-août, au Festival de poésie sauvage de la Salvetat sur Agoute, je serai également à la table des éditions Musimo. Sinon, les ouvrages publiés par Musimo peuvent être commandés par votre libraire préféré ou directement sur le site. Et la revue Brève est disponible en librairie. Vous pouvez également vous procurer les anciens numéros sur le site de Scopalto. Quant aux ateliers d'écriture, eh bien, pour ceux que cela intéresse, il faut suivre l'agenda et la communication des médiathèques de la métropole.
Et nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver sur ces sites, sur ces différents sites, Elisabeth Vitielli. Nous avons été heureux de découvrir cette écriture tournée vers l'actualité qui part à la rencontre des problématiques de l'autre. Et je pense que l'auditeur a été intéressé par ces témoignages et cette écriture d'engagement, qui est une écriture d'engagement et de défense de l'écriture, et puis également un travail conjoint avec des illustrateurs, photographes ou peintres. Merci Elisabeth Vitielli.
Merci à vous. Merci à vous Marie-Agnès. Et merci pour ce moment partagé. Et merci également aux auditrices et aux auditeurs de Radio FM+. Love.